Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor.
Non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
Je te fais rigoler. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant? Comment je suis marrant?
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission Ciné Primitif, toujours en compagnie d'Ahu et Bobo.
Bonsoir.
Salut tout le monde.
Ça va bien les gars?
Impeccable, impeccable.
Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit thème mafia.
Exactement.
Ouais, impatient.
Ouais, alors pour un petit rappel du concept de l'émission, on va vous présenter 6 films de chacun, avec une musique issue de ce film. Voilà, je pense qu'on peut partir.
Ouais, oui, vas-y.
On part avec un grand classique.
Eh oui.
Je dirais pas un grand classique, c'est le...
Classique.
Oui.
Celui qui a fondé les bases. Le Parrain.
Ouais.
Le Parrain, le titre original The Godfather, réalisé par Francis Ford Coppola et avec Marlon Brando dans le rôle de Don Vito, Al Pacino en Michael Corleone, James Caine en Sonny Corleone et Robert Duvall en Tom Hagen. La musique passe les générations et a été composée par Nino Rota. Le film parle de la famille Corleone, une des 5 familles mafieuses de New York, dirigée par Don Vito Corleone, interprété par Marlon Brando. Après une tentative d'assassinat contre Vito, son fils Michael, initialement éloigné des affaires criminelles, se retrouve impliqué dans la lutte de pouvoir et devient un chef impitoyable. Le Parrain explore le thème de la loyauté, de la famille et de la corruption, ainsi que de la tragédie.
Ouais.
Excellent synopsis, film monumental. Oui. Avec en distinction,
bah, plusieurs Oscars, hein, bien sûr. Meilleur film, meilleur acteur pour Marlon Brando, qui est même pas venu chercher son titre. C'était sa femme, il me semble, qui avait été pour chercher son titre.
Pour quelle raison?
Je crois que c'était refus du système à l'époque.
Ah, ok, c'était un rebelle.
Marlon Brando. Et meilleur scénario adapté, parce que c'est un film adapté d'un roman, de Mario Puzo, qui a participé aussi au scénario du film. Donc, ce film dure 3 heures. Ouais. Il est sur un rythme très lent, mais au final...
ça passe tout seul.
Ça pose l'ambiance et on vit dans la famille Corleone.
Ouais, c'est ça.
On est assis sur la chaise avec eux. On ne voit pas, du moins on voit les autres familles, mais via l'interaction avec d'autres protagonistes qu'il y a dans le film. Mais il y a toujours un Corleone dans l'histoire.
Bah, et puis tu te retrouves à soutenir cette famille...
qui ne veut pas aller dans la drogue.
D'organisation criminelle. Tu te dis, ah ouais, ils sont bien quand même.
Mais et surtout le personnage de Michael, qui lui, à la base, veut rester loin de cette famille.
Qu'un vétéran de...
Donc interprété par Al Pacino.
De la Seconde Guerre mondiale.
Puis bah, son évolution aussi dans le film est...
Mmh. Allez, Magistral, c'est un de ses premiers rôles. Hein. Je crois qu'il agit là, il est une vingtaine.
Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'Al Pacino, il n'ait jamais reçu l'Oscar. Quand même, tu parles d'Al Pacino, tu te dis qu'il en a au moins 5.
Ah ouais, je pensais quand même.
En tout cas, ce film-là était vraiment un gros succès à l'époque. Pour 6 millions de dollars investis, ils ont touché plus de 260 millions sur l'international. C'est sorti en France 8 mois après les États-Unis. Il y a eu beaucoup de marketage publicitaire autour de ce film. C'était le grand film à aller voir.
Ah oui, oui, bien sûr.
Tous les gens se ruaient vers le cinéma pour aller voir ce film, même jeunes.
Ouais.
à pas voir trop jeune. Non
après, on va pas aller voir ce film, je pense.
Après, en plus, c'est ce qui est incroyable. Je sais pas si tu comptais en parler, j'en sais rien du tout. Mais dedans, ils ont fait jouer un véritable mafieux.
Ok, je savais même pas.
Lequel? C'est le tueur que tu vois tout au début, tueur gage, qui d'ailleurs se fait étrangler. Et ben lui, c'est un véritable tueur d'une famille italienne de l'époque. Les vrais mafieux étaient sur le tournage du film pour voir si ça se passait bien. En fait, donc les vrais mafieux étaient sur le tournage du film de Coppola pour voir s'ils racontaient pas n'importe quoi en fait.
Ça
sur
coûtait peut-être plus de 6 millions, mais 6 millions officiels.
Et
alors.
À un moment donné, ils sont tellement bien entendus, les acteurs, etc., qu'il y a un véritable mafieux qui est venu jouer dans le film. C'est un véritable tueur de la mafia qui avait à son actif, je crois, 7 meurtres.
Ah, c'est marrant, ouais.
Il était impressionné par Marlon Brando.
Ouais, ben Marlon Brando.
Et Marlon Brando lui a donné des conseils pour jouer, etc. Enfin, un truc de ouf. C'est-à-dire que là, le cinéma est complètement immergé dans l'univers mafieux. C'est magnifique.
Bah, il était déjà plus ou moins. Mais...
pour en revenir à Marlon Brando, c'est vrai que l'interprétation est incroyable. Par contre, ne le regardez pas en français. Oh, j'ai commencé en français. C'est insupportable.
Ah, les faux accents italiens.
Ah, mais la voix de Marlon Brando, je sais pas le doubleur, mais.
Marlon Brando, il s'est mis une prothèse dans la bouche pour avoir sa mâchoire carrée. C'est pour ça qu'en VO, il y a vraiment un intérêt à le voir. Du coup, je pense que c'est un peu trop forcé.
Ah, non, c'est compliqué. Ouais,
puis
ouais.
Les faux accents italiens, ils sont un peu trop prononcés.
Ouais, non, franchement,
je crois que pas la
même chose. Le film est d'une beauté. On est un peu sur du Marcel Pagnol. On arrive à Palerme.
Ah, c'est extraordinaire.
C'est vrai que.
Bah, t'es pas à Palerme, t'es dans la Sicile profonde.
Oui, c'est vrai que le passage en Sicile est cool.
Il est génial. Tu voyages un peu, tu vois. Qu'est-ce qui peut lui arriver et tout. Puis se faire attraper par la mafia. Il se marie.
Et c'est là où.
Qui prend les rênes.
Pas le choix, hein. Faut sauver la famille.
Qui retourne aux États-Unis.
Il est magnifique.
En tout cas, un film à voir. La trilogie est à voir. On parle que du premier, mais. Moi, j'ai une préférence pour le deuxième, mais celui-là.
Peut-être
moi,
qu'on aura l'occasion de reparler des suites plus tard.
Parce que là, on est là pour des années, sur ces premiers films.
Mais par contre, moi, je sais que. Enfin, voilà, avec Dahu, on est allé en Italie. Dès qu'il y a un truc qui joue sur une place ou quoi que ce soit, c'est la musique du pain, gros.
La magie du tourisme. Et d'ailleurs, tu parlais de musique.
Je voulais juste conclure en disant que c'est le film qui avait posé toutes les bases
Bien sûr,
de la mafia.
Bien sûr.
Si maintenant on n'a plus besoin de dire qui est le parrain, qui est ça, qui fait quoi dans une mafia, c'est grâce à ce film en partie.
C'est exactement. Ce film donne la compréhension du système mafieux.
L'organisation, le fonctionnement.
De la pieuvre, tout simplement la pieuvre. C'est-à-dire, t'as beau lui couper la tête. Les tentacules, elles continuent
Si t'as pas deux parents italiens, du moins deux parents.
Il faut deux parents siciliens ou italiens pour faire partie
de la famille. D'ailleurs, dans les autres films, ils en parlent
exactement,
aussi.
Exactement, hein. Exactement. Non, c'est magnifique.
Là-bas. Donc, regardez ce film. C'est pas pour les jeunes, en tout cas. C'est un film à voir, à revoir. Il n'y a pas grand chose à acheter. Et maintenant, je vous propose d'entendre la musique de Nino Rota, The Godfather Waltz. C'est le thème principal du film.
Et c'est parti.
Thank you.
Et de retour dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter la musique du parrain d'Ahu.
Composée par Nino Rota, c'est le thème principal.
Magnifique.
Ouais, on a déjà entendu au moins une fois, je suppose.
Magnifique.
Et on reste toujours sur le thème mafia et on enchaîne avec le deuxième film proposé par Bobo.
Oui, Les Affranchis. Donc yes. On a déjà vu dans un premier temps les parrains, enfin le parrain avec la tête de la pieuvre, c'est-à-dire voilà, The Godfather. Et là, on est sur Les Affranchis, c'est-à-dire qu'on est sur une tentacule de l'organisation, quoi. Donc, film réalisé en 90 par Martin Scorsese. Avec Ray Liotta, ouais, c'est la première fois qu'il se retrouve à la tête d'affiche d'un film et qui lui apportera la consécration internationale.
Quelle performance!
Ouais, voilà, qui le fera connaître du grand public, quoi. Qu'on retrouvera aussi dans Hannibal, Revolver, voilà. Mais avec à ses côtés Robert De Niro, qui prendra un Oscar dans Le Parrain 2. Qu'on a retrouvé, que j'aurais aimé présenter aussi dans Voyage au bout de l'enfer sur la première émission du Vietnam. Et on a effectivement Joe Pesci qui prend sur ce film l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Le synopsis, c'est une histoire vraie du livre de Nicolas Pileggi, dont les droits étaient détenus par le producteur Erwin Winkler. Depuis sa plus tendre en enfance, Henry Hill, né d'un père irlandais et d'une mère sicilienne, qui va justement lui donner une légitimité d'avoir accès, si vous voulez, à la pègre sicilienne, veut devenir gangster et appartenir à la mafia. Adolescent dans les années 50, il commence par travailler pour le compte de Paul Cicero et voue une grande admiration pour Jimmy Conway, qui a fait le détournement de camions sa grande spécialité. Lucide et ambitieux, il contribue au casse des entrepôts de l'aéroport d'Idlewild et épouse Karen, une jeune juive qu'il trompe régulièrement. Mais son implication dans le trafic de drogue le fera plonger. Film
parfait.
Ouais, il est génial, il transcende. Et puis la performance de Ray Liotta dedans.
De Joe Pesci surtout.
Aussi de
Joe Pesci. Super. Moi, je pense que s'il y a des bons acteurs, c'est qu'il y a un bon réalisateur derrière.
Ouais, oui,
exactement. Je pense que Martin Scorsese dans ce thème-là, il excelle.
Être honnête, moi, c'est mon préféré de la sélection. Je sais pas.
Ouais, c'est un de mes préférés de Scorsese, en tout cas.
Ouais. Et il y a des répliques comme aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. Et j'ai un petit speech de Ray Liotta qui explique que tout lui est dû. Une fois qu'il a été un affranchi, tous les commerçants, tout le monde dans le quartier avait un respect et une obligation envers lui et gagnait plus d'argent que n'importe qui. Mais enfin, après, les speeches, les monologues que vous voyez dans le film, vous pourrez les écouter. Ils sont.
Oui, c'est comme des films Scorsese où il y a beaucoup de voix off pour.
Oui, c'est vrai, ça explique.
Moi, j'apprécie. C'est sur une longue. Au moins, ça évite de faire des longueurs. Et tu vois qu'on est dans un nouveau du film de gangster par rapport à justement Le Parrain où tout est vécu.
Oui.
Et c'est bien foutu, parce que généralement c'est plutôt détestable qu'on dise quoi faire et tout, quoi écouter, mais le fait qu'il alterne entre plusieurs personnages à chaque fois dans ses voix off, entre Joe Pesci, entre la voix off de De Niro,
Il raconte son enfance et qu'il dit les gens me regardaient plus de la même façon, ils savaient que j'étais pas tout seul et j'avais plus besoin de faire la queue à la boulangerie, quoi. Tout un tas de choses, et c'est vrai que ces monologues-là nous expliquent pourquoi en fait il voulait devenir un gangster, ce que ça lui a apporté d'être un gangster.
Mais bah, il commence très jeune, hein.
On a garé des voitures, etc.
Voilà, mais il pèse lourd.
Il va se rendre compte au bout d'un moment que c'est la mafia, quoi, donc c'est pas des copains.
Non, mais tu fais partie d'une des tentacules, t'es pas à la tête comme le parrain. Voilà, t'es vraiment dans les sous-bassements au final, si tu veux, de cette organisation criminelle, mais tu es quand même protégé par elle. Mais par contre, faut que tu respectes les règles.
Voilà,
t'as des règles à respecter. Et par contre, c'était tous des fous furieux, donc à un moment donné, ils respectent rien. Juste une petite anecdote, et surtout parce que j'ai un collègue à ma gauche qui vous présentera ce film-là, mais on a Joe Pesci qui va être chargé d'éliminer Billy Batts, Frank Vincent, qui dans Casino, ça sera au tour de Frank Vincent de participer au meurtre de Joe Pesci.
Ça, c'est beau, ça.
Ça, c'est pas mal. Et c'est un film basé sur des faits réels, quand même, où le vrai casse de la Lufthansa rapportait aujourd'hui plus de 16 millions. Donc c'est des vrais gangsters, quoi. C'est l'histoire de vrais gangsters, les mecs ont vraiment fait des trucs.
Et une chose qu'on trouvera dans la plupart des films qu'on va voir, c'est limite que se fixe Don Corleone dans le Parrain, c'est la drogue, on fait pas, on fait l'argent et tout. Et on verra que la drogue, c'est ce qui cause la fin de chaque...
Ben ouais.
Oui, c'est ça, il y a quand même une morale, enfin une... bizarrement, il y a un cap à pas franchir, un code d'honneur.
Ouais, voilà.
Qui, et dans tous ces films, du moins dans presque tous les films qu'on va voir, la drogue reviendra comme le...
Exactement, comme...
Le déclin de...
C'est vrai, non mais...
De tous les personnages.
Ben, je sais pas de tous les personnages, mais du système mafieux sicilien.
La différence entre les Siciliens qui sont expatriés aux États-Unis et les natifs américains d'origine sicilienne.
Ouais. Je vous ferai mentir sur un film quand même, à ce niveau-là. Mais ouais, moi je sais pas si vous vous rappelez du jeu Mafia, en fait. Moi j'ai l'impression que c'est exactement la même histoire. J'ai l'impression de rejouer au jeu Mafia.
Ouais, c'est bien inspiré.
Ouais, je pense que c'est une grande inspiration.
Ouais, carrément, ouais.
Après, j'ai plein d'anecdotes. J'aime bien moi Spider qui se fait éclater le pied par Joe Pesci quand même. Qui jouera dans la série Les Sopranos et qui lui va éclater le pied d'un employé de banque qui le fait patienter, ouais. Et on a Martin Scorsese qui a eu recours à des freezy frames, image arrêtée en français, qui rendent hommage au film Jules et Jim de Truffaut avec Jeanne Moreau. Voilà.
En tout cas, il fait jouer sa mère dans tous ses films. Et on la retrouve encore une fois à la cuisine.
Ouais. Et une dernière fois, une dernière chose, Joe Pesci qui prendra donc l'Oscar du meilleur second rôle dans ce film, prononce, donc il n'y a pas que lui, mais il prononce 246 fois dans le film le mot fuck.
Ah, bah, fuck.
Ouais. Et un des discours les plus courts aussi des Oscars.
Mais il est extraordinaire, Joe Pesci. Franchement, il est monumental dans ce film. Voilà, il fait peur. D'ailleurs, sur le générique que t'as mis là, où c'est son copain, il parle avec son copain, mais à un moment donné, il pète les plombs, tu sais pas s'il rigole ou pas.
Ouais, je veux pas d'amis comme ça, moi.
Ah, il est ouf.
Il maintient attention.
La musique que j'ai sélectionnée, c'est Derek and the Dominos, Layla.
Et de retour dans Ciné Primitif, et Bobo, on était sur ton film.
Oui, Les Affranchis avec la musique de Derek and the Dominos, Layla.
Un très bon film.
Tout à fait.
Et une bonne musique.
Et on enchaîne derrière avec Donnie Brasco, mon nono.
Ouais. C'est parti. Alors, après les deux chefs-d'œuvre dont on vient de parler, peut être un peu... Je pense pas que ça va être compliqué, mais ce film, je trouve un peu moins bien, mais je le présente quand même. Et il est sorti en 1997. Le réalisateur, c'est Mike Newell. Je trouve qu'il n'a pas une filmographie de fou. Il a fait 4 mariages et un enterrement.
Je suis bien bobo.
Harry Potter à la coupe de feu, que bah, il ne faut... Enfin, regardez-le si vous voulez. Ah, et Prince of Persia, les sables du temps. Je ne sais pas ce que ça donne, mais j'imagine le pire.
Mais 4 mariages et un enterrement, c'est sympa.
En distribution, Johnny Depp, Al Pacino et Michael Madsen.
Ah oui, hein, franchement, c'est un beau trio quand même. Hein, t'as beau dire ce que tu veux.
Ah oui, bah ouais, le trio est parfait par contre. Ouais. C'est des acteurs de fou. Pour le petit synopsis, le film raconte l'histoire vraie de Joseph Pistonnet. Et c'est basé sur le livre que Joseph Pistonnet a écrit. C'était un agent du FBI qui infiltrait une des 5 familles de la mafia de New York à la fin des années 70. Pour sa couverture, il se fait appeler Donnie Brasco, d'où le nom du film. Et il joue le rôle d'un receleur expert en diamants. Il va se rapprocher d'ailleurs comme ça de Lefty, qui est un petit malfrat qui fait partie de la mafia, c'est un petit soldat quoi.
Ouais, c'est le mec pas très intelligent, mais qui fait les sales besognes.
Interprété par Al Pacino.
Qui est monumental.
Et qui va le prendre sous son aile.
Qui est monumental dedans.
Et voilà, Donnie Brasco, du coup, il va infiltrer la mafia comme ça, et puis faire sa petite place, rentrer un peu en... Bah, il va se prendre un peu au jeu, en fait. Il va devenir... parce qu'il est resté quand même 6 ans dans la mafia. Donc, en fait, il va s'attacher au personnage. À côté de ça, il a des conflits familiaux. En fait, tout le pousse à rester dans cette famille.
Mais pendant 6 ans, c'est un mafieux. Il est obligé d'être comme eux.
Et il s'attache surtout, enfin il y a un lien qui se crée.
Ah oui, il y a un fort qui se fait avec le personnage de Pacino.
Ouais, c'est ça, donc il sait plus trop où il en est, et du coup bah, ça se ressent aussi au niveau familial. Si c'était pas une histoire vraie, je trouverais pas...
Moi je le trouvais excellent, ça faisait longtemps que j'avais vu, je m'attendais bien. À pas bien.
C'est
un réalisateur lambda anglais qui fait un film sur la mafia aux États-Unis, je me suis...
Ouais.
Dans mes souvenirs, c'était pas ouf. Quand je l'ai revu, je fais danse,
mais... Mais j'ai pas énormément de choses à dire, parce que si tu veux, le rôle de l'infiltré qui pète un plomb, qui s'attache, je pense qu'il y en a des dizaines des
mais
films.
Mais en fait,
comme
c'est
ça.
Le film.
Mais là, en fait, c'est vraiment le fait que ça soit vrai.
Enfin, ouais.
Que ça
soit... Mais au-delà du thème de la mafia, il y a vraiment un rapport humain entre les deux protagonistes que tout oppose qui fait que le film est sympa et marche, puisque le mafieux en question qui suit, Al Pacino,
Lefty,
est un mec de la mafia plus ou moins lambda, quoi.
Ouais, c'est ça.
Tout pourri, quoi.
Tu as 60 ans,
c'est un mec en jogging qui a pas de thunes, une famille de merde.
Mais pas loin, quoi. Du coup,
Le mafieux qui mène pas la grande vie, qui essaye de mettre.
Qui sera toujours le larbin des autres. Je trouvais ce côté-là sympa parce qu'on monte toujours le flambeur et tout. Et là, on monte le côté un peu plus sombre de la mafia. Parce qu'il a pas dans la tête, il a rien. Et il habite dans
C'est ce que j'aime aussi dans ce film-là. C'est-à-dire que t'as vu Al Pacino il y a 20 ans dans Don Corleone, qui prend les rênes quand même d'une des plus grandes familles. Et là, en fait, il se retrouve le sbire dans ce film-là. D'une de ces 5 grandes familles. Le jeu d'acteur, il est génial, j'adore.
Mais oui, les acteurs sont
tout.
Le scénario est bon, la réalisation, ça va, mais les acteurs sont bien dirigés, donc ça va.
Ouais, exactement.
Et Michael Madsen, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles.
Michael Madsen a fait pas mal,
mais il a pas fait que des chefs-d'œuvre. C'est un super acteur.
Non, mais il a une gueule, Michael Madsen.
C'est ça, en fait, c'est la gueule.
C'est un acteur série B, plutôt, c'est un acteur de seconde zone, Michael.
Bien sûr, il a jamais eu de.
Mais là, dans ce film-là, dans ce Tarantino aussi, mais là il joue bien.
Après, il y a des trucs. On parlait tout à l'heure de la mafia, un peu de comment ça se passe. Il y a une réplique que j'aime bien, c'est quand tu te fais convoquer par la mafia, donc par les boss en gros. C'est Al Pacino qui dit ça à Johnny Depp. T'arrives, t'es vivant, tu ressors, t'es mort, et c'est ton meilleur ami qui t'a liquidé.
Ouais, bien sûr. Ouais,
donc c'est ça le fonctionnement de la mafia, quoi. Pas de copain. Hein.
Non, mais t'es convoqué, voilà. Après, si tu y vas pas, on tue toute ta famille.
C'est ça, donc.
Et c'est pareil chez les Mexicains, chez les cartels mexicains, etc. C'est le principe.
Toutes les organisations criminelles.
Voilà, c'est-à-dire que c'est soit. Voilà, à un moment donné, on t'a dit, tu dois mourir parce que t'as fait n'importe quoi. Et il fait n'importe quoi. Ouais. Puisque c'est lui qui fait rentrer, en fait, cet indique. Et voilà, c'est lui le garant. Et ils le disent, c'est la poisse. Il l'appelle la poisse, Lefty. Mm. Il l'appelle la poisse. Donc, il le sait.
Mais
pour lui, c'est inévitable, tu vois. Et au final, il s'est tellement aussi attaché à Johnny Depp. Il se dit, c'est tout, c'est comme ça.
et un peu résilié. Ouais.
Bon, c'est un, en tout cas, c'est un film à voir.
Non, il est sympa. Après, par rapport à d'autres films qui avaient plus de rythme ou Le Parrain qui est vraiment un chef-d'œuvre. En fait, ça dépend dans quelle ordre tu regardes les films.
Moi, je le trouve hyper intéressant dans le sens où t'as une caméra avec un angle différent justement sur l'organisation.
À ce niveau-là, je suis d'accord.
Sur ce thème, et je le trouve très percutant et très intéressant.
Ouais, puis on n'est pas dans l'excès de du biopic, on va dire. C'est une histoire vraie, mais...
Oui, pas exagéré.
On n'est pas dans l'exagération. On reste dans un truc assez terre à terre. Et l'aspect humain est assez cool. Ouais,
non, c'est vrai. Et voilà, il a quand même fait, je crois, interpeller, enfin, grâce à lui, Donnie Brasco, donc le vrai Piston, il a fait interpeller 200 personnes et 100 ont été en prison. Donc le mec, maintenant, on ne sait pas où il est. Si vous avez des nouvelles de lui, écrivez-nous, appelez-nous.
Et là, je rebondis par rapport aux affranchis, où, tu sais, à la fin, quand il vend son pote, ben, le mec qui est en face de lui, c'est le véritable flic qui a mené l'enquête et surtout qui leur a donné une fausse identité, qui les a mis comme témoins, etc. C'est le vrai mec. Donc le gars, c'est un vrai mec du FBI qui joue dans le film et qui leur donne le truc de témoin, etc. dans les affranchis.
Ok, énorme. Belle petite anecdote pour finir sur ce film. Moi, je vous propose qu'on passe à la musique que j'ai choisie. Et donc, la musique, c'est Happiness de The Pointer Sisters. Your inspiration. I love the way that you give your heart so freely. Your sweet sensation. You're my invitation to. De retour dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter Pointer Sister Happiness, la musique de Donnie Brasco. Et on enchaîne sur le prochain film.
Le prochain film, c'est Casino, réalisé par Martin Scorsese. Hein,
deuxième fois qu'il passe.
C'est moi, film de mafia, il y a la mort du Scorsese.
Exactement.
scénarisé par Martin Scorsese aussi, et Nicolas Pileggi, qui a écrit le livre dont le film est inspiré.
Comme, comme Les Affranchis.
Exactement.
C'est le même auteur.
Du coup, ils ont déjà travaillé ensemble et on trouvera à peu près la même chose. Oui. Les acteurs principaux sont Robert De Niro, qui joue Ace, Sharon Stone, qui joue Ginger, sa compagne.
Magnifique Sharon Stone.
Génial.
Joe Pesci, qui joue Nicky.
Mais Robert De Niro et Joe Pesci, qu'on retrouve aussi dans Les Affranchis.
Ouais.
Le film est sorti en 95 aux États-Unis, en 96 chez nous. Alors, je vais passer directement au synopsis.
Vas-y.
Dans les années 70 et 80, Sam, alias Ace, de Robert De Niro, du coup, un bookmaker talentueux, est choisi par la mafia de Chicago pour diriger un casino tangier à Las Vegas. Tandis qu'il parvient à instaurer une gestion impitoyable et efficace, les choses se compliquent avec l'arrivée de Nicky Santoro, un gangster brutal, et sa relation tumultueuse avec Ginger McKenna. Le rêve de contrôle absolu de Ace s'effondre dans un monde où règne cupidité, la trahison et la violence. Ce film a été nommé pour les Oscars meilleure actrice de Sharon Stone. Je suis un peu dubitatif là-dessus. Oh. Et il n'a pas eu de récompense majeure. Le film est assez cool, on reste dans le même mécanisme que Les Affranchis. Une voix off qui explique, du moins chaque personnage a sa voix off qui va expliquer pourquoi il a fait cette action et introduire les séquences qui vont arriver après.
Ils ont un peu le même rôle en plus. Enfin,
oui, en fait, en ayant vu les deux films, on reste vraiment, du moins j'ai l'impression de voir les deux mêmes films.
Ouais, après là,
un univers parallèle.
Là, ouais. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que le casino est géré par la mafia. Qui s'introduit à Las Vegas et ils mettent à la tête du casino un juif.
Sur le principe, je suis entièrement d'accord que le scénario il est différent forcément, sinon ce serait un peu chiant qu'ils fassent le même film. Les mêmes musiques, il y a même des musiques qui sont égales.
C'est vrai.
Les deux films sont bien, il n'y a pas de souci. Casino, j'ai une préférence. L'intro, vraiment la première, est géniale et explosive.
C'est le cas de le dire, en plus, ça a explosé le début.
Ça a explosé le début. Les Affranchis, à l'inverse, je trouve que c'est la dernière heure qui sublime le film. Et Casino, je trouve qu'il s'enterre dans du déjà vu avec Les Affranchis. Mais le film reste génial. Hein,
après,
mais...
moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est ce juif-là, Robert De Niro, qui a la tête d'un casino et qui ramène énormément d'argent parce qu'il gère super bien. Le mec, il est fait pour ça. Et par contre, sa relation avec son pote italien, qui est complètement zinzin, Joe Pesci. Et en plus, il s'acoquine avec la fille qu'il faut pas. Tout, en fait, c'est ses relations qui vont effondrer son monde, qui vont effondrer son rêve.
Là, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, en revanche, le personnage de Sharon Stone, moi, je trouve qu'il est trop omniprésent et il donne vraiment l'impression d'avoir mis un personnage féminin fort, tu vois, pour donner une direction au film. Alors que De Niro, tu vois, qui est très terre à terre et lui, il veut plus dormir, il veut gérer son casino et ce personnage-là revient.
Après, s'il avait pas été juif et qu'il avait été sicilien, etc., Sharon Stone, dans les 20 premières minutes, elle prenait une balle derrière la tête et ils allaient l'enterrer dans le désert et c'était fini quoi, tu vois.
Après, j'ai une préférence pour Les Affranchis après revu les deux d'affilée, hormis le début de Casino qui est vraiment du moins tu vois toute la grandeur que ce que t'as pas dans Les Affranchis en fait, où Les Affranchis t'es dans le quartier, t'es à la barbecue derrière les maisons. Après, on t'enchaîne 20 ans de la vie d'un mec en 5 minutes. Casino, on arrive directement à un instant T. Ça commence, c'est l'explosion, t'es dans le vif du truc, quoi.
Alors après, moi, ce que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est le casino, Las Vegas, enfin, c'est un peu l'endroit des États-Unis qui rapporte le plus d'argent, quand même. Oui. Et donc, forcément, la mafia sicilienne, etc., elle est présente là-bas. Et ben, les mecs, ils mettent un mec qui rapporte des sous et t'as un Sicilien là-bas qui fait n'importe quoi.
Ouais. Et ce qui est drôle, au plus, c'est l'explication du casino, comment ça marche, comment il décèle un peu les tricheurs, la magouille, etc.
Mais c'est lui-même un maillot gouilleur qui connaît toutes les ficelles.
C'est intéressant,
c'est
en fait. Genre les embrouilles, justement, autour du casino où t'as tout le monde qui surveille tout le monde.
Un film à voir. Franchement, la première heure, ça introduit tellement bien le truc que sur un des chapeaux de roue que forcément ça s'essouffle après.
Ouais.
Y a quand même des scènes qui sont vraiment cool la conclusion. Il y a juste le ventre creux du...
Mais moi j'aime bien cette ascension très rapide et au final cette chute lente. En fait, il t'explique la chute lente. Toujours cette présence mafieuse. Tu fais plus l'affaire, t'as fait n'importe quoi, t'as pas réussi à gérer le truc. Et tac, et tu retournes de là où t'étais. On te tue pas. Et le mec, donc, il a fait une ascension de l'Everest et il redescend, tac, et il a plus rien.
Celui, le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de gérer. Lui, il s'en fout, c'est juste régler les problèmes, que ça déborde pas. Chacun a son poste, et il gère ça comme une administration classique. En fait.
Il est dans son élément.
Et ça va jusqu'au déclin des casinos avec l'art moderne, parce qu'à l'époque, c'était des vrais joueurs qui allaient.
Mais en tout cas, ça donne pas envie de tricher au casino, hein, parce que moi, j'ai des petits souvenirs
ouais,
de certaines
cette
scènes.
Ouais, extraordinaire.
Où, voilà, quoi, attention au marteau, les gars. Ouais,
j'ai été un peu dur avec le film, mais le film est vraiment très bien. Ouais, c'est juste qu'il y a beaucoup de similitudes avec Les Affranchis dans le rythme, les mécaniques de réalisation, etc. Et du coup, quand on voit les deux dans la foulée.
Ouais, moi j'avoue que je préfère carrément Les Affranchis.
Mais Casino, il est beau, du moins, il y a plein de trucs qui sont bien.
Ouais, il arrive 5 ans après, mais je trouve que, si tu veux, il apporte un plus aux Affranchis Casino. Dans le sens où, déjà, il ancre Robert De Niro et Joe Pesci dans leur rôle. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, t'es mafieux.
C'est juste que j'ai un sentiment
Robert
de
Niro, Joe Pesci.
C'est juste que j'ai un impression de facilité, justement, de reprendre les mêmes acteurs, de refaire la même mécanique, tu vois. Tu retrouves des nouveaux lieux, tu retrouves une mécanique qui va ressembler. Après, il y a plein de réalisateurs qui sont comme ça, hein. Tu vois, Tarantino, t'as toujours la même mécanique.
Et du coup, on passait à la musique.
La musique du film, c'est les Rolling Stones, Gimme Shelter.
Et de retour dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter David.
La bande son de Casino avec la musique de Rolling Stone, Gimme Shelter.
Et on passe au prochain film, un film que je vais présenter. Donc c'est True Romance, sorti en 93, réalisé par Tony Scott. Et le scénario surtout signé Quentin Tarantino, c'est le premier scénario qu'il a écrit. D'ailleurs, il voulait réaliser ce film. Il a essayé pendant plusieurs années, mais à l'époque, il n'avait rien réalisé. Donc, il a fini par vendre son scénario juste pour pouvoir réaliser l'excellent Reservoir Dogs.
Exactement.
Moi, je crois que ça reste toujours mon film préféré de Tarantino. Mais vraiment.
D'accord.
Voilà. La distribution, par contre, le casting.
Ouais, voilà. Non, mais c'est le casting de ce film.
Il est en train de devenir fou.
Toutes les demi-heures. t'as une machine qui arrive dans
non,
le
mais,
film.
Non, mais en plus, là, je vais pas citer tout le monde et je vais pas faire un rappel de tous les films qu'ils ont fait, bien sûr. Christian Slater, Patricia Arquette, Gary Oldman, Dennis Hopper, Brad Pitt, Christopher Walken, Val Kilmer, Samuel L. Jackson. D'ailleurs, je parlais de Val Kilmer, il fait Elvis. Oui. Donc,
tu
le personnage.
Vois pas. Tu le vois pas, tu le vois pas, mais c'est
on le voit
Kilmer.
Pas. C'est le Elvis imaginaire.
il
imagine
génial.
Le personnage principal. Je trouve ça très drôle.
Clarence, Clarence. Je t'ai toujours aimé. Et depuis toujours. Et pour toujours.
Alors, pour le petit synopsis, Clarence Worley, c'est un vendeur de bandes dessinées, amateur de films d'arts martiaux et grande fan d'Elvis Presley. En vrai, Clarence, c'est Quentin Tarantino. C'est tel qui... Enfin, pour moi, c'est toujours
oui,
vu comme ça.
Personnifié,
c'est personnifié,
quoi.
Oui, voilà. Il s'est personnifié. C'est un gros geek.
Et si je peux me permettre, à ce moment-là, si tu veux, justement, tu dis fan de films d'arts martiaux, et ce sont les films de Sonny Chiba, et Sonny Chiba, tu le retrouves par exemple dans Kill Bill, où
et voilà, y a plein de...
c'est celui qui forge les sabres. Voilà, donc effectivement, tu as la patte de Tarantino qui... enfin, voilà,
mais forcément, c'est son scénario. Pas, en plus, il y a des acteurs qu'on va retrouver aussi dans les films de Tarantino, mais bon... En gros, donc je reprends le synopsis. Donc Clarence, pour son anniversaire, il veut comme à chaque fois voir la trilogie des films de Street Fighter de Sonny Chiba. Et là, il fait la rencontre d'une femme nommée Alabama. Donc avoir passé un bon moment avec elle, et il va se rendre compte que Alabama est une escort girl payée par son patron pour pas qu'il passe son anniversaire tout seul. Mais ça ne les empêche pas d'avoir un coup de foudre réciproque et de se marier le lendemain. Clarence, en apprenant le métier de Alabama, décide d'aller voir
son Mac,
qui est interprété par Gary Oldman. Et bah, il va aller rechercher ses affaires et ça se passe un peu mal, donc bagarre. Clarence finit par tuer le Mac, à prendre la valise d'Alabama, sauf que c'est pas la valise d'Alabama. C'est une valise remplie de cocaïne.
Du coup, tu peux nous expliquer le lien avec la mafia sur ce film ?
Eh ben justement, sauf que la mafia n'est pas d'accord, parce que apparemment, la valise appartenait à la mafia. Du coup, bah, ils décident de poursuivre Clarence et Alabama dans leur petit road trip romantique.
Sans que ça rentre.
Ouais, ouais, alors moi je suis un grand fan de ce film. Il y a des répliques, il y a des jeux d'acteurs, notamment, moi c'est mon préféré, c'est entre Christopher Walken
et
Dennis Hopper. Bah, c'est lunaire, c'est
Dennis Hopper est le père de Clarence, justement. Ouais, ouais.
Mais c'est lunaire, c'est extraordinaire.
Ce dialogue, il est.
c'est des punchlines à Tarantino.
Ouais, 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 ouais. Non, mais je suis fan de ça, et surtout, en fait, t'as l'impression que ce film, le mec, il fait tout le temps les mauvais choix. Mais au final, il a une chance, enfin, je dirais c'est le 1% où ça se passe bien à chaque fois. J'adore ce film pour ça. Il prend des risques inconsidérés.
Il s'en rend pas compte.
Ouais.
Mais il est dans sa romance.
Oui, il est dans sa romance. Exactement. Dans son truc de bande dessinée qu'il a toujours en tête et tout.
Il est dans un film, le gars.
C'est ça.
Moi, je vous assure, peut-être s'il y a des célibataires au bout de l'antenne, vous regardez
The Street Fighter.
non, vous regardez
la trilogie,
vous regardez True Romance, et ça va vous donner de l'espoir.
Non, et en plus ça finit sur je vais pas dire la fin, mais il y a un moment en tout cas où c'est ce qu'on appelle l'impasse à la mexicaine, c'est-à-dire que c'est
tout le monde se braque.
Voilà, tout le monde se braque. En vrai, c'est ça. Et le premier qui va tirer, tu sais que ça va partir en live. Et ça, Tarantino, il aime beaucoup.
Tu sais que normalement, il n'y a pas de survivant.
Et là, est-ce qu'il y en a ? On ne sait pas. Il faut voir le film.
Moi, j'ai l'impression, si tu veux, que c'est un film de copains. C'est-à-dire que le mec, il a eu le scénar. Il a vu qui c'est qui est là à Hollywood, les gars. Vous venez. Enfin, tu vois, t'as Brad Pitt à un moment donné. En fait, son seul jeu d'acteur, c'est dans le canapé, éclaté. Et il joue super bien. Enfin, c'est Brad Pitt en même temps.
Tony Scott, il est anglais. Tous les gens, là, j'en vois pas beaucoup d'anglais.
Gary Oldman.
Donc, un film de copains, je sais pas.
Et par contre,
c'est en anglais.
Oui, Gary Oldman. Ouais.
Par contre, ce qui est assez ouf, c'est que il y a beaucoup d'acteurs qu'on va retrouver aussi dans les films de Tarantino.
Exactement.
Hein, quand même.
Ouais. Tu sens vraiment sa patte avant.
Carrément. Par contre, je lançais une petite alerte disparition, Christian Slater. Mais qu'est-ce que tu es devenu depuis les années 90-2000?
Bah, il a fait quand même Entretien avec un vampire, il est pas mal.
Ouais, et depuis.
Après, c'est quand même un acteur qui est assez limité dans son jeu d'acteur.
Oui, c'est vrai.
Si tu le compares par exemple à Brad Pitt, Dennis Hopper, ou à Christopher
Walken. Mine de rien, il joue dans les trucs de requins de merde, Sharknado, tout ça.
Oui, voilà.
Je pense qu'il gagne presque plus de thunes avec ça qu'en ayant joué en tour.
Voilà ce qu'il est devenu, quoi.
C'est l'acteur principal, mais je le trouve pas ouf.
Ouais, mais tu vois, je pense que c'est pas mal de mettre un acteur qui soit...
Mais exactement.
Moins connu, parce que Arquette était déjà peut-être un peu plus connu à l'époque, mais Christian Slater était pas spécialement connu, et c'est sûr que si tu mets un Dennis Hopper à la place, il va absorber le truc. Et...
voilà, exactement.
Et là, le fait que ça soit pas un mec lambda, tu peux t'identifier à lui, et ouais, du coup, te dire que ça peut arriver à tout le monde.
Et en plus, ça laisse énormément de place aux personnages secondaires, et qui sont extraordinaires.
Ouais, 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 c'est ça.
Tous les personnages secondaires, mais sont...
oui, j'avoue.
À couper le souffle.
Bon, la musique que je vais passer, c'est la musique du générique, parce que pour moi, c'est un thriller romantique. Donc, je voulais mettre une musique d'amour. La musique, c'est Chris Isaac, Two Hearts. The stars in the sky, the night seems so dark around you. Won't say a word and wonder why no one's found you waiting for love, praying for love again. Give it to me, don't hesitate. Love's a heavy thing, too heavy for one heart to bring me your love. Give me your love again, it's not your fault. One heart can never win, it takes two hearts. Two hearts just to hold love, two hearts. It's just to hold your love. Et du coup, c'était Chris Isaac, la musique de True Romance, le film que j'avais choisi. Et on enchaîne avec déjà le dernier film.
Ghost Dog, est... la voix du samouraï, sorti en 99 par Jim Jarmusch, mais aussi producteur et scénariste du film. Et il a aussi fait Dead Man, que je vous conseille, avec Johnny Depp. J'adore ça aussi, ce film. Voilà, film poétique. Film un peu barré, qui diffère d'un peu tout, avec Forest Whitaker, qu'on peut retrouver dans Platoon, Good Morning Vietnam, Bloodsport, que j'ai déjà présenté,
Dernier Roi d'Écosse,
Panic Room, Phone Game, Repo Man, Le Dernier Roi d'Écosse, et Rogue One. Attention, peut-être qu'on parlera dans un autre chapitre peut-être, de Rogue One. Et Isaac de Bancolet, j'ai mis Isaac de Bancolet parce que je vais en parler beaucoup après. Synopsis, Ghost Dog vit au-dessus du monde au milieu d'une volée de pigeons dans une cabane sur le toit d'un immeuble abandonné. Ghost Dog est un tueur professionnel qui se fond dans la nuit et se glisse dans la ville sans qu'on le remarque. Il est guidé par les mots d'un ancien texte samouraï, le Hagakure, qui enseigne le Bushido, c'est-à-dire la voie du samouraï. Quand son code moral est trahi par le dysfonctionnement d'une famille mafieuse sicilienne qui l'emploie à l'occasion, il réagit strictement selon la voie du samouraï. Avec une réplique culte, si l'on devait définir en un mot quelle est la condition d'être d'un samouraï, sa base est d'abord de consacrer sérieusement son corps et son âme à son maître. C'est un film que j'apprécie énormément, qui est pas courant. Qui a pas les mêmes codes que les autres, qui est poétique, et j'adore ce film.
C'est pour les films de J.J. Jarmusch que j'avais vu, et j'avais pris une grosse claque à l'époque, hein. Je l'ai repris aussi en le revoyant.
Ok, et... tu peux pas forcément le même avis que vous. Ouais, j'ai trouvé
Je me suis dit
un peu lent, je me suis demandé pourquoi
un mec peut-être que quelqu'un qui l'a pas vu, moi j'ai vu, j'étais au lycée en fait. C'était Love du Marble Tank, tout ça, ça a claqué.
Ah, la BO,
il y avait RZA, il y avait Forest Whitaker, du moins.
Ouais.
C'était un truc qui faisait un peu ghetto et qui sortait du lot. Et moi, j'avais vraiment bien aimé. C'est vrai que peut-être si tu le vois hors de ce contexte-là, parce que t'as quand même des trucs assez rétro, le titrage est dégueulasse. Faut se l'avouer. Des trucs rouges.
En fait, c'est ça.
Il y a des trucs un peu rétro, mais le film, moi, je le porte dans mon cœur. C'est le meilleur film de Ginger Mush, si sans hésitation. Ouais.
Et Dead Man aussi, qui est bon aussi. Mais non, j'aime ce personnage qui fait pas partie du monde, qui est en complète contradiction avec le monde actuel et qui se réfère à d'anciens textes, et qui vit selon une autre culture et une autre génération. Après, si tu veux, c'est un mec qui a échappé à la mort. Il échappe à la mort et il trouve au final...
Un code d'honneur...
Non, il trouve juste son salut, il trouve sa voix dans ce livre et il se complaît dans cet amour envers son maître qui l'a sauvé.
Oui, je comprends ça, mais après, tu vois que le mec, il est perturbé. Ou alors, j'ai pas compris le film.
Non, mais déjà, le gars, il se fait tabasser, il va se faire tuer. Donc, en fait, à la base, c'est un black parmi tant d'autres dans le ghetto qui va se faire tuer à l'âge de 16 ou 17.
En fait, la présentation du personnage, on s'en fout. Son passé. Du moins, on explique pas où il est né, ses parents, ses
familles. Voilà.
On arrive à un instant T et il y a quand même un flashback qui explique pourquoi il est le bas salle de je sais plus son
Louis.
Louis et du coup faut du moins c'est une directive, il est assez muet comme personne et avec le code du samouraï il impose une sorte de respect que ce soit dans le quartier etc. On est clairement sur un personnage qui difficilement pas exister en vraie vie. Hein.
Non, mais tout, c'est pas le problème qu'il puisse exister.
Mais non, mais du coup, moi je vois ça plus comme une ouverture d'esprit sur...
Voilà, et puis surtout cette référence, si tu veux, à un code d'honneur, un respect de certaines lois, d'une culture complètement différente, en fait, du mafieux italien, complètement différente de la vie américaine. C'est un black qui se réfère à une culture ancestrale,
asiatique. C'est un peu de l'appropriation culturelle.
Aux États-Unis en faisant le tueur pour des Italiens. Okay, déjà, tu as un melting pot là-dedans qui est dingo.
Et d'ailleurs, les Italiens, les mafieux, ils font pas peur. Hein. C'est tous des vieux, ils ont passé 70 ans.
Ça périclite.
La fin de la mafia.
Ouais, c'est ça, exactement.
Justement, ils sont complètement débordés par les mecs du ghetto, qu'on leur code à eux du ghetto, leur respect entre eux.
Ça, c'est intéressant, multiethnique.
Et par rapport aux mafias racistes qui s'enferment entre eux, alors que lui rencontre son copain parle pas la même langue que lui, c'est son meilleur ami, ils se comprennent pas.
Exactement, moi je voulais surtout présenter ce film-là, parce que il faut pas croire non plus qu'on fasse l'apologie de la mafia sur cette émission.
Je crois qu'on l'a pas fait. Hein.
Non, je le précise, mais effectivement ça reste quand même les Siciliens italiens, quelque chose de profondément raciste. Et, et là, on le voit avec Louis qui raconte donc pas la même histoire que celle qu'a vécu Ghost Dog, où il raconte à ses patrons qu'en fait il s'est fait braquer par les mecs, alors que c'est pas vrai. Il a juste éclaté des mecs qui allaient tuer un noir, mais il pouvait pas le dire à ses patrons qui étaient racistes. Et ça, je trouvais ça génial. Et puis derrière, t'as.
Le grand remplacement. Moi, je trouve que le grand remplacement de la mafia sicilienne par l'arrivée de la street, on va dire.
Ouais, mais bien sûr.
T'as fait des guillemets hein, quand même, je précise.
De la street.
Le grand remplacement.
Ah oui.
C'est pas un terme qu'on aime bien.
Bah après, tu vois, c'est un film qui a plein de références. Notamment avec Jean-Pierre Melville dans le film du samouraï avec Alain Delon, tu vois, en 67. J'aimerais parler, sur le peu de temps qui me reste, de la musique quand même composée par RZA, qui est membre du Wu-Tang Clan, et qu'on voit plusieurs fois en arrière-plan sur des scènes, avec aussi au début du Camion de Glace, où il y a des rappeurs qui sont proches du collectif de Wu-Tang Clan qui improvise le titre Ice Cream avec justement ce vendeur de classe Isaac Bankole qui sont la base du texte de la discussion qui va suivre et donc ce meilleur ami qui est haïtien parlant le français, donc c'est ça qui est sympa. C'est pour ça que je vous ai demandé quelle est la version que vous avez vue, parce qu'en VO en fait c'est pas sous-titré, donc le vendeur de glace en VO il parle français, mais en VF ils font exactement la même chose, sauf que le vendeur de glace il parle youkou.
C'est des langues haïtiennes.
Du coup, ce qui fait que tu le regardes en VF, tu te mettras à la place du spectateur américain. Voilà, et Donc voilà, le vendeur de glace, il affirme que la vanille est le parfum le plus populaire au monde, ce qui est vrai, mais le chocolat reste le meilleur. Et après, ça part sur Ice Cream, donc la chanson du Wu-Tang Clan, qui parle de vanille, chocolat, citron, les couleurs qui sont associées, les asiatiques, les noirs, etc. Voilà, le Melting Pot. Voilà, après j'ai juste un petit truc à rajouter sur les dessins animés. Vous savez, il regarde beaucoup de dessins animés. En fait, chaque dessin animé introduit la prochaine scène.
Tu vois, j'avais pas accroché vraiment en voyant le film. Il y a des trucs que j'avais compris et tout, mais avec un peu plus d'explications sur certains trucs. Mais, pourquoi pas, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des explications sur des
après,
films.
Après, le film, il a quand même un rythme qui est correct quand tu le regardes.
Mais moi, j'aime bien, c'est qu'il prend le temps.
Oui, mais t'as vraiment un côté Hitman, le jeu vidéo. C'est comment on va finir l'autre, t'as plusieurs méthodes. Bon, on va passer au plan B, en fait.
Ouais, c'est ça. Bon, par contre, les trucs où il fait, je sais pas quoi, avec son revolver, là, les petites
avec un peu de ralenti.
Ouais, mais ça, c'est son délire à lui, enfin... Après... Il suit un code, je peux pas faire de cette manière, ça doit pas t'empêcher d'atteindre ton objectif. Et tac, le mec, en fait, il fonce tête baissée, il arrive, tatatata. Et dernière petite anecdote, Gary Farmer jouant le rôle de Nobody dans, donc personne, l'amérindien dans Dead Man, que je vous conseille ce film, voilà, il prononce aussi exactement la même phrase dans Ghost Dog, c'est-à-dire stupid fucking white man, foutu con de blanc. Cet indien qui est sur les toits où t'as les deux Rital qui arrivent et qui tue un pigeon sans raison, oui. Et il donne cette réplique et il la donne aussi dans Dead Man. Voilà ce que j'avais à dire sur ce film.
Je pense que c'est
poétique.
Son meilleur film est Jim Jarmusch, en tout cas. Bon, enfin, suite et cœur, c'est l'inverse, hein. Il y en a tellement de bons que on sait pas lequel mettre devant.
Et j'ai trouvé que finir là-dessus, c'était pas mal sur le thème mafia.
Le déclin de la mafia. La mafia
ne sert à rien.
Si vous nous écoutez,
il y a un message sur la lecture aussi.
Je propose qu'on choisisse le prochain thème.
La roulette, s'il te plaît, mon ami.
Parce que là, il nous reste plus. Deux émissions avant juin. Après, on fait une petite pause estivale.
Avant les vacances scolaires.
Ouais, on fait des petites vacances. On va partir avec tout l'argent qu'on a gagné.
À Hollywood.
Avec cette émission, on va partir à Hollywood. Ouais. Bon, alors, les amis, je vais lancer la roulette. Il nous reste deux thèmes. Et le prochain thème sera
films d'animation. Ok, ça marche.
Donc, les gars, on se retrouve le mois prochain avec les films d'animation. Du coup, on va se quitter.
Une musique de. Du Wu-Tang Clan, Ice Cream Baby, avec Motherfucker, avec RZA.
Ok, c'est parti, on se fait des bisous.
Bisous.
Au mois prochain. Watch these rap niggas get all up in your guts. French vanilla, butter, pecan, chocolate deluxe. Even caramel sundaes is getting touched and scooped in my ice cream truck. Who says it up? Yo, honey dip, summertime, fine jerry dripping. Seen you with pickings with a bunch of chickens, how you clicking? I kept shooting strong notes as we got close. She rock rope, honey throat smelling like impulse. Your whole shell, baby's wicked like Nimrod. Caught me like a freshwater straw, or may I not be God? Attitude is very rude, boo. Crabby like seafood, it turns me on like Vine, see it all rude. They call me Starkey Love Hunt, check the strategy by any means. Shirley Temple Cross was done by Billie Jean. Black Mrs. America, your name is Erica, right? True. Lazy apple, small V6 shoe. Caramel complexion, breath smelling like cinnamon. Excuse me, hun, the door mean no harm. Turn around again, goddamn, backyard's banging like a Benzie. If I were Jiggy, you'd be spotted like Spot McKenzie. I'm high powered, put a Dina Howard to sleep, you're parting. That bitch been on my mind all week, but back to you, Maybelline Queen, let's make a team. You can have anything in this world except cream. So what you wanna do, what you wanna do? Let's go ahead and walk these dogs and represent Woo. Watch these rap niggas get all up in your guts. French vanilla, butter, pecan, chocolate deluxe. Even caramel sundaes is getting touched. And scooped in my ice cream truck, who tears it up? Challenge finest. What up, boo? Peace, your highness, yo, I'm lounging. Big dick style, y'all niggas is the flyest. Moves you're making, true fire chooses, shaking out a rape patient. You're looking good, fly colored Asian. Ghettos, them is your hometown, we could go the whole round. After that, I'm shooting downtown. I'm rocking hats and your wig is all intact. Who's that queen bee chick? Eyes curly black. Freaks be moving in fly sneaks. Two finger rings and gold teeth. And ain't afraid to hold heat.
So when I step in the square, dear, you better have cream to shit. Freakin' spin, I can get. Watch these rap niggas get all up in your guts. Prince Vanilla Butter, pecan chocolate deluxe. Even caramel sundaes is getting touched.